suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Un an jour pour jour après la dénonciation unilatérale de l'accord nucléaire iranien par Washington, Téhéran a annoncé ce matin qu'il cessait d'appliquer certains de ses engagements. La République islamique menace également de renoncer à plusieurs autres engagements, encore si les autres États partis à l'accord ne trouvent pas de solution d'ici à 60 jours pour alléger les effets des sanctions américaines visant le pays, en particulier dans les secteurs pétroliers et bancaires.
Ailleurs dans le monde, les Sud-Africains ont commencé à voter ce matin.
Oui, des élections législatives et régionales promises à l'ANC au pouvoir depuis 1994, et ce malgré le chômage, la corruption, mais aussi la pauvreté qui continue à gangréner le pays.
Devenue malgré elle l'incarnation des dérives de la loi sur le blasphème au Pakistan, Asia Bibi aurait enfin quitté son pays.
Après avoir été acquittée il y a 6 mois d'une condamnation à la peine capitale, elle aura passé plus de 8 années dans les couloirs de la mort. Après que le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé hier que le pouvoir d'achat moyen par ménage allait progresser de plus de 2% en 2019, Gérald Darmanin, dans un entretien au Parisien ce matin, assure lui que près de 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu bénéficieront l'an prochain d'une baisse d'un montant moyen de 300 euros par foyer. Enfin, l'invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Sébastien Chadeau-Pétronin, plus de 2 ans après l'enlèvement de sa mère au Mali, il vient de publier aux éditions Fayard un livre intitulé « Ma mère, ma bataille ». Et puis à 2h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Les célébrations de la grande victoire monumentale, nous dit Galia Ackermann, en Russie, ce sera demain, le 8 devient le 9. Est-ce là une instrumentalisation de l'histoire par Vladimir Poutine? On reçoit donc l'historienne franco-russe, auteur du Régiment immortel, dans la deuxième partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. C'était donc il y a un an, jour pour jour, devant les caméras du monde entier, Donald Trump, fidèle à sa stratégie privilégiant les décisions unilatérales, déclarait que les États-Unis se retiraient de l'accord sur le nucléaire iranien. Une annonce qui allait aussitôt marquer le début d'une année orchestrée par le rétablissement des sanctions américaines contre la République islamique, ouvrant ainsi la voie à de vives tensions géopolitiques nourries par d'innombrables joutes entre Washington et Téhéran, mais aussi les 5 signataires restants, Pékin, Moscou, Paris, Londres et Berlin. Et c'est ainsi que ce matin, un an donc tout juste après la dénonciation de l'accord par les États-Unis, le président iranien Hassan Rouhani a choisi à son tour de s'adresser à la télévision pour lancer un avertissement. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Téhéran donne désormais 60 jours aux pays restants partis à ce pacte pour mettre en œuvre leur promesse de protéger les secteurs à la fois bancaires et pétroliers contre les sanctions américaines. Mais au-delà, Christian, que cherche au fond l'Iran?
Écoutez, l'Iran envoie d'abord un signal fort. Téhéran a respecté à la lettre l'accord de Vienne de 2015. En revanche, du point de vue des Iraniens, les autres pays signataires, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, eux n'ont pas respecté leur part du marché. L'Iran n'a pas cueilli les fruits de l'accord à cause des sanctions américaines, mais aussi de l'attitude des pays signataires qui n'ont pas voulu ou pu compenser le manque à gagner financier pour Téhéran. Alors l'Union européenne a certes mis en place en janvier un mécanisme de troc avec l'Iran, baptisé INSTEX, mais cet instrument n'a qu'une portée commerciale symbolique, puisqu'il ne concerne que les médicaments et les produits agroalimentaires, et puis surtout, il ne fonctionne pas encore, nous a confié un expert financier. En se retirant partiellement de l'accord de Vienne, l'Iran place aujourd'hui les Européens, les Chinois et les Russes devant leurs responsabilités en faisant monter la pression pour les forcer à trouver une formule qui permette de sauver l'économie iranienne de l'effondrement.
Alors, dans le cas où les pays toujours signataires de cet accord sur le nucléaire ne répondraient pas ou pas assez bien aux demandes de Téhéran, la République islamique menace d'ores et déjà de revenir sur certains de ses engagements, par exemple en augmentant son niveau d'uranium enrichi, en clair reprendre une partie de ses activités nucléaires, même si en réalité, Christian, elle n'y a pas intérêt.
Oui, l'Iran cherche d'abord à gagner du temps, mais n'a pas envie de tomber dans le piège tendu par Washington, qui espère que Téhéran sortira complètement de l'accord. Ce n'est pas l'idée des Iraniens, car ils savent que s'ils déchirent eux aussi l'accord de Vienne, eh bien la République islamique redeviendra un État voyou avec de nouvelles sanctions à la clé. Ils ne pourront même plus compter sur les Européens, les Russes et les Chinois qui, eux, souhaitent que Téhéran respecte ses engagements nucléaires. L'objectif de l'Iran est donc clairement de faire monter les enchères afin de faire bouger les pays signataires de l'accord nucléaire sans franchir la ligne rouge.
Merci Christian Chéneau. Épreuve supplémentaire de la pression que les États-Unis entendent mettre sur l'Iran après que l'administration de Donald Trump a annoncé ces derniers jours l'envoi d'un porte-avions et de plusieurs bombardiers au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a lui effectué hier une visite surprise en Irak, pays allié à la fois des États-Unis et de l'Iran, où quand après des mesures commerciales punitives, la tension se déplace sinon sur le terrain militaire, à tout le moins sur celui de la guerre psychologique visant à isoler Téhéran dans la région. C'est l'autre coup de semonce donné par le locataire imprévisible de la Maison Blanche et qui n'est pas loin de ressembler à un véritable coup de canon tant il menace de faire basculer l'économie mondiale dans la récession. Après s'être lancé il y a un an dans une guerre commerciale avec Pékin, les États-Unis accusent désormais la Chine de revenir sur certains de ses engagements pris dans le cadre des négociations pour mettre fin à la lutte qu'ils ont eux-mêmes initiée. Le négociateur en chef américain brandit désormais la menace de droits de douane quasi immédiate. Pour autant, les tractations devraient se poursuivre demain et vendredi à Washington. Enfin, énième bras de fer auquel se livrent à distance, cette fois-ci les États-Unis avec la Russie, celui autour du soulèvement avorté du président autoproclamé vénézuélien Juan Guaido contre le régime de Nicolas Maduro. Pour l'heure, la tentative manquée de l'opposant de réduire à néant le soutien de l'armée au président élu a figé les deux camps dans leur position. En revanche, quand bien même aucun des deux camps n'a réussi à neutraliser l'autre, Nicolas Maduro continue, lui, d'accentuer la pression. L'Assemblée constituante a levé l'immunité de 7 parlementaires de l'opposition, dont la Cour suprême a annoncé hier qu'ils feront l'objet de poursuites pénales pour leur soutien à la tentative de soulèvement. Dans un pays où près de la moitié de la population noire adulte vit encore aujourd'hui dans des townships et où un quart des Sud-Africains vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, il apparaît bien difficile aujourd'hui de trouver la force de cet idéal qui, il y a un quart de siècle, avait conduit à mettre fin à l'apartheid. À la persistance des inégalités raciales s'ajoute une corruption rampante. Quant au parti arrivé au pouvoir lors du premier scrutin multiracial, l'ANC, après 25 ans de règne, il affiche un bilan économique désastreux. Et c'est donc dans ce contexte que les Sud-Africains se rendent aux urnes aujourd'hui pour des élections générales. Alors d'après tous les sondages, l'ANC devrait vraisemblablement conserver la majorité absolue. Reste à savoir ce que les Sud-Africains, le cas échéant, peuvent espérer des 5 prochaines années de mandat du président Cyril Ramaphosa. Élément de réponse avec notre correspondant Noé Auchet-Baudin.
Ils peuvent bien sûr espérer que Cyril Ramaphosa reste fidèle à ses promesses. Lui qui a un programme ambitieux de relance de la croissance en berne depuis la récession de l'an dernier. Son objectif, attirer plus de 100 milliards de dollars d'investissement. Pour cela, Ramaphosa doit d'abord faire le ménage au sein de l'ANC, du gouvernement et des entreprises publiques au bord du gouffre financier après les années Zuma. Alors, pour tourner définitivement la page de son prédécesseur, Ramaphosa a mis en place une grande commission d'enquête pour faire la lumière sur ces années sombres. L'autre sujet brûlant, c'est celui de l'expropriation des fermiers blancs, un sujet ultra sensible que le président a promis il y a de ça un an et demi, mais peine à mettre en place depuis, là aussi pour ne pas effrayer les investisseurs. Cyril Ramaphosa aura au moins permis à l'ANC de ne pas sombrer après les années Jacob Zuma, mais le parti historique de Nelson Mandela devrait quand même perdre 10% de ses électeurs par rapport à 2014.
Plus de 6 mois après avoir été acquitté d'une condamnation à mort pour blasphème qui avait suscité l'indignation à l'étranger, Asia Bibi a bel et bien quitté le Pakistan. C'est ce qu'affirme ce matin une source gouvernementale venant ainsi confirmer ce que l'on pressentait, à savoir qu'Asia Bibi a bel et bien été libérée de son Pakistan natal où elle était devenue la figure la plus détestée du pays. Les précisions de Solène Fioretti.
C'est aujourd'hui la fin de l'affaire Asia Bibi. Après presque 10 ans de violence, après 2 assassinats d'hommes politiques ayant pris sa défense, puis la traque de son mari et de ses 2 filles pendant des années, la mère de famille et ancienne ouvrière agricole Asia Bibi serait enfin libre et en sécurité. D'après son avocat, maître Saïf Oulmalouk, Asia Bibi est déjà arrivée au Canada, sa nouvelle terre d'accueil. Un bon pays où Asia aura une vie enfin normale, a-t-il commenté. Un pays qui a déjà accueilli des victimes de la loi sur le blasphème au Pakistan. L'annonce de son départ n'a pas pour le moment créé de violence, alors que des milliers de militants radicaux avaient protesté dans la rue après son acquittement en octobre dernier. Le Premier ministre Imran Khan, fervent défenseur de la loi sur le blasphème, s'était montré ferme à l'égard de ces manifestants, appelant la rue à respecter la décision des juges, eux-mêmes menacés de mort. Si beaucoup ont espéré que ce jugement courageux ferait jurisprudence, la loi contre le blasphème continue d'être appliquée au Pakistan. Bien qu'elle s'attaque aux chrétiens et aux hindous, les principales victimes restent les musulmans.
Et puis toujours au Pakistan, un attentat contre les forces de police près d'un sanctuaire soufi de Lahore, la deuxième plus grande ville du pays, a fait 10 morts et 24 blessés ce matin. L'attaque a été revendiquée par un groupe dissident des talibans pakistanais qui combattent depuis des années le gouvernement d'Islamabad. Le Bénin, longtemps épargné par le terrorisme, faisait jusque-là figure de havre de paix en Afrique de l'Ouest. Or, depuis l'enlèvement la semaine dernière de deux touristes français partis en voyage dans l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage dans la région et dont on est toujours sans nouvelles, la question est désormais posée. La langue impitoyable du terrorisme vient-elle de mordre le territoire des Béninois ? Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Pour l'heure, personne ne parle officiellement d'enlèvement. Il n'y a pas davantage de revendications, mais plusieurs éléments semblent tout de même corroborer cette hypothèse dans une région frontalière du Burkina Faso où opèrent de nombreux groupes armés. D'où cette question, Claude. Le Bénin est-il le dernier pays d'Afrique de l'Ouest à être frappé par cette contagion djihadiste?
Oui, tout à fait, Thomas. D'autant que c'était effectivement un de ces pays que l'on pensait tranquille, épargné par la menace. Et voilà donc qu'une zone supplémentaire de l'Afrique de l'Ouest se colore de rouge. Après le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le djihad se propage dans tout le Sahel. En l'absence de revendications, vous le soulignez, il est évidemment impossible de dire qui est derrière l'enlèvement de ces deux touristes français dans le parc du Penjari. C'est vraiment une zone reculée où les spécialistes de la région depuis plusieurs mois quand même ont signalé la présence de groupes armés. Dans tout le Sahel, évidemment, la porosité des frontières permet la circulation de ces groupes auxquels s'ajoute une myriade de groupes djihadistes qui prospèrent localement sur des raisons idéologiques et sociales. À la fois par la force, mais aussi en séduisant, en se présentant comme des alternatives à des états centraux défaillants et corrompus, comme c'est le cas par exemple au Mali ou au Burkina Faso, le Burkina qui est désormais considéré comme un des pays les plus fragiles de la région. Alors dans cette galaxie de groupes, pas forcément connectés entre eux, qui sévissent en Afrique de l'Ouest, il y a quand même deux obédiences principales qui se dégagent. Al-Qaïda, présent depuis très longtemps, qui a essaimé depuis l'Algérie, et l'État islamique qui cherche à s'implanter dans cette zone. Coïncidence ou pas, deux jours avant l'enlèvement des deux touristes français, le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, réapparaissait dans une vidéo appelant à frapper les intérêts français, notamment au Mali et au Burkina Faso.
Merci Claude Guibal. L'invité de la rédaction aujourd'hui en duplex de chez nos confrères de France Bleu, Belfort Montbéliard, Sébastien Chadeau-Pétronin. Bonjour monsieur.
Merci de me recevoir, bonjour.
Vous venez de publier la semaine dernière aux éditions Fayard un livre intitulé « Ma mère, ma bataille ». Alors faut-il le préciser, votre mère c'est évidemment Sophie Pétronin, médecin humanitaire, enlevée le 24 décembre 2016 au Mali. Avant toute chose, depuis la toute dernière vidéo, la cinquième, publiée par ses ravisseurs, avez-vous reçu des nouvelles de votre mère ?
Alors oui, j'ai reçu des nouvelles, mais tout à fait inattendues, et c'est par connexion. J'ai reçu un rapport détaillé de sa santé du mois de décembre, lorsque justement les gens qui la détiennent font un appel et nous font savoir que son état de santé se détériore fortement et qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose.
Alors dans ce livre, vous racontez tout, depuis la brutalité de l'annonce, le jour où une journaliste, un matin très tôt, informe par téléphone d'abord votre femme, qui elle-même aura le mauvais rôle, ainsi que vous l'écrivez, de devoir vous prévenir, jusqu'aux ultimes tentatives avortées donc pour tenter non seulement de rencontrer les ravisseurs de votre mère, mais aussi de verser une rançon, une proposition inespérée, écrivez-vous. Cette offre a finalement été rejetée par le gouvernement français. Est-ce que c'est là la raison pour laquelle vous avez souhaité écrire ce livre ?
Non, c'est le livre, c'est une manière pour moi de poser certaines choses et puis de rester transparent, de rester dans la transparence. On souffre de discrédit, ma mère la première. Et puis moi-même, qui je l'entends parfois, je suis considéré comme une tête brûlée ou je gênerais une action quelconque de l'État. Donc voilà, j'ai voulu poser les choses et rappeler que voilà, tout au long de ce parcours, ben on essaye d'être dans la bienveillance, on essaye de réussir quelque chose, mais sans vouloir gêner qui que ce soit. On a pris aussi cette décision au mois de décembre de laisser la pleine place, la pleine primeur, le plein pouvoir à Emmanuel Macron, qui réclamait que je m'écarte, et je me suis écarté, mais voilà. La donne a changé, les mois s'écoulent et il ne se passe rien. Et même si le Quai d'Orsay a fait savoir qu'ils étaient dégoûtés de ce que j'avais pu raconter, eh bien je crois qu'il y a une personne qui est bien plus dégoûtée qu'eux et qui doit se sentir tellement abandonnée. C'est elle. Et j'ai décidé de reprendre mes démarches. Mais le livre était en marge de nos actions, de notre silence, de notre patience. Mais le livre était déjà entamé.
Alors, les mots que vous avez contre les autorités françaises n'en restent pas moins assez durs. Selon vous, la seule option finalement retenue par le chef de l'État serait une intervention militaire, avec le cas échéant toutes les difficultés que cela suppose pour sauver un otage. C'est ainsi que vous accusez aujourd'hui l'État d'avoir pris la décision de sacrifier votre mère en refusant le principe même d'une négociation. Vous écrivez « J'ai été abandonné par mon propre pays. Le sommet de l'État est, je vous cite encore, imperméable aux leçons d'humanité ».
Imperméable, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'entend pas ce qu'on lui dit. Je ne suis pas le seul à réclamer au moins une audience, au moins une explication, au moins une clarification de sa position. Et puis, c'est le grand silence. À nouveau, le Quai d'Orsay m'a reproché d'avoir coupé les ponts avec eux. Mais non, je n'ai pas coupé les ponts. Je suis silencieux comme on me l'a demandé depuis 4 mois. Mais eux aussi sont silencieux. Ils l'ont été pendant près de 2 ans et demi, mais continuent ce mutisme, cet immobilisme, cet attentisme. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut proposer d'autres. Je n'ai fait qu'être factuel et raconter ce qui se passait vraiment. J'ai pas l'impression de les accuser de quoi que ce soit.
Vous racontez un certain nombre de vos entretiens, malgré tout, avec des membres des autorités françaises, au premier rang desquels Jean-Yves Le Drian. Jamais, en revanche, Emmanuel Macron. Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas sollicité de rencontre avec le chef de l'État, ou bien que celui-ci n'y a jamais répondu favorablement?
Aussi, j'ai multiplié les appels, je les ai aussi multipliés dans les médias, souvent même la veille d'un départ pour Bamako, pour Niamey ou pour Nouakchott. Je crois qu'avec cette conférence de presse qu'on a menée avec Ingrid Betancourt à mon retour de mission, c'est une lourde mission qui avait duré un mois, je pense qu'on a fait savoir aussi au chef de l'État qu'il avait les pleins pouvoirs et qu'il était important qu'il dialogue avec nous. Peut-être que ce serait un prélude à l'ouverture et au dialogue, puisque on sait que Monsieur Macron ne veut pas dialoguer avec les djihadistes, mais il veut pas non plus dialoguer avec moi. Est-ce qu'il veut dialoguer avec les Français? Est-ce qu'il dialogue avec Jean-Yves Le Drian? Voilà, je n'ai pas de mots durs, je m'interroge. Je ne connais pas ce monsieur. Je serais très honoré de pouvoir m'entretenir avec lui sur le sujet de ma mère, parce que c'est quand même un sujet tellement important.
Alors, même si vous le précisez dès le début de votre livre, c'est d'ailleurs, je crois, la toute première phrase, l'histoire que vous racontez n'est pas un roman d'aventure, mais c'est vrai que cela y ressemble par bien des aspects. Vos heures d'interrogatoire dans un commissariat au Niger, les voitures aux vitres teintées, vos prises de contact avec d'obscurs intermédiaires, Touareg en particulier, des agents de l'ombre, un ex-agent secret, des diplomates officiels ou officieux. Et puis, il y a évidemment question de cette guerre contre Al-Qaïda au Mali, cette guerre, je vous cite, si silencieuse chez nous qu'elle paraît ne pas exister, une guerre dans une région complexe, on l'a entendu tout à l'heure avec Claude Guibal, où se chevauchent 3 États, un conflit à la fois politique, religieux, tribal, et auquel il faut encore ajouter même l'héritage du colonialisme. Est-ce que cela fait partie des difficultés de cette équation?
Mais bien sûr, malheureusement, on nous a souvent conseillé de ne pas mêler l'histoire Sophie Petronin avec la politique, mais elle est imbriquée. Quand bien même on voudrait pas, on est obligé de reconnaître qu'il y a ce paramètre. Je pense que ma mère est une victime collatérale de tout ce bazar. Et ce bazar ne va pas en s'améliorant. L'analyse de Claude était vraiment très bonne. J'ai bu ses paroles, ça fait du bien d'entendre ça. Maintenant, il faut appuyer dans ce sens-là. Il faut prendre conscience qu'en 2018, il y a eu autant de morts que les 3 années précédentes et que 2019 s'annonce catastrophique. Il faut prendre conscience de nos difficultés avec l'armée française, la force Barkhane, à lutter contre le djihadisme, puisque le djihadisme est en train de se déplacer, de se propager. Je crois que voilà, le Bénin est touché, mais le Bénin est touché aux frontières avec le Burkina, et on savait tous que le Burkina commençait à présenter des signes de vulnérabilité. Et tout ça grandit, tout ça est en train de d'exploser. C'est une véritable start-up. On n'arrive pas à trouver de solution avec ça. Donc il faut vraiment en prendre conscience. On est au début du problème. Hein. Ça va empirer.
Une dernière question, monsieur Shadow Petronin. Une source proche du Quai d'Orsay, contactée par l'AFP, semble considérer que votre livre fragilise la situation de votre mère et vous reproche au fond, mais sans douter d'ailleurs de votre sincérité, de vous être persuadé tout seul que vous pouviez mieux faire que les services français. Que répondez-vous? Et d'ailleurs, les autorités vous ont-elles contacté depuis la publication du livre?
Non, ni avant ni après. Moi, je veux pas trop rentrer dans cette petite guéguerre. Je trouve que c'est assez bas. Ce sont voilà des coups bas. Bientôt, le Quai d'Orsay va me reprocher la mort de ma mère. Ils diront peut-être que si elle est morte en captivité, c'est de ma faute parce que j'ai gêné leur action. Non, je crois qu'il faut pas exagérer. On est face à un problème. Et on peut essayer de trouver une solution tous ensemble. Moi, j'ai toujours appelé au dialogue, j'ai toujours appelé à la concertation. Il faut pour ça se mettre à une table et discuter. Le Quai d'Orsay est dans un mutisme actuellement. Je crois que c'est pas la somme à six chiffres, le carburant ou toute forme d'échange qui a été refusé par le Quai d'Orsay au mois de décembre. C'est le principe même d'une négociation. Et on a un être humain, on doit faire quelque chose, on doit la sortir et la seule solution, c'est de commencer à discuter. Et j'invite le Quai d'Orsay à venir discuter au lieu de m'envoyer ces petites phrases qui veulent déclencher une guéguerre qui est stérile et qui ne nous apportera rien, ni les uns ni les autres.
Merci Sébastien Chadeau-Pétronin d'avoir répondu à notre invitation depuis chez nos confrères de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Je rappelle le titre donc de votre livre « Ma mère, ma bataille » publié aux éditions Fayard. La ministre française des Armées a confirmé ce matin un chargement imminent d'armes à bord d'un cargo attendu au Havre. Florence Parly n'a pas livré de détails sur la cargaison, pas plus que sa destination. En revanche, le média en ligne Disclose, lui, fait état de 8 canons de type César à destination de l'Arabie Saoudite engagée dans le conflit au Yémen. Rappelons que le 15 avril dernier, sur la base d'un rapport détaillant l'arsenal utilisé par l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats Arabes Unis contre les rebelles aussi au Yémen, le collectif avait estimé que des armes françaises étaient au cœur de batailles meurtrières pour les civils. Parmi les jeux troubles aujourd'hui de la diplomatie française au Proche et Moyen-Orient, Paris se trouve régulièrement accusé de soutenir en sous-main l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, où siège le gouvernement libyen d'Union Nationale, le seul reconnu par la communauté internationale, autant dire qu'en recevant aujourd'hui à l'Elysée le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, Emmanuel Macron ne manquera pas de s'expliquer sur ces critiques répandues et jugées par les autorités françaises comme inacceptables et infondées. Près de 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu bénéficieront d'une baisse d'impôt l'an prochain pour un montant moyen de 300 euros par foyer. Voilà ce qu'assure ce matin le ministre des Comptes publics dans un entretien au journal Le Parisien. Selon Gérald Darmanin, cette baisse d'impôt de 5 milliards d'euros promise par le président Emmanuel Macron, qui vient s'ajouter à une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat, sera compensée par des économies équivalentes. Enfin, le locataire de Bercy assure que la France tiendra son cap de sérieux budgétaire avec un déficit autour de 2% l'année prochaine. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors au-delà de toutes ces bonnes nouvelles et derrière ce qui apparaît aussi comme de la stratégie politique, il convient toutefois de préciser certaines choses, et en particulier à la lumière d'un rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale, rapport dans lequel, Anne-Laure, on apprend que le retour à l'équilibre de la sécurité sociale, initialement prévu cette année, est désormais remis en question.
Oui, les Français demandaient du pouvoir d'achat, le voilà, c'est un peu l'idée de ce que résume Gérald Darmanin, mais il ne mentionne pas effectivement une alerte récente qui s'est fait beaucoup plus discrète. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale, organisme paritaire chargé de surveiller les comptes de la Sécu, annonce que, à cause de ces mesures d'urgence concédées après la crise des Gilets jaunes, les comptes de la Sécu revenus dans le vert, après 18 ans de déficit, pourraient basculer à nouveau à hauteur de 3,5 milliards d'euros et après avoir de façon éphémère affiché un excédent de 600 millions d'euros. Principale explication donc, ces mesures d'urgence ponctionnent des crédits traditionnellement affectés au financement de la Sécu, à savoir les heures supplémentaires qui seront exonérées et la baisse de la CSG pour une partie des retraités. En outre, le budget de la Sécurité sociale était censé revenir à l'équilibre cette année grâce notamment à une hausse de ses recettes, c'est-à-dire des cotisations sociales versées par un nombre croissant d'employeurs et d'employés. Mais cette croissance-là est en berne également. Les prévisions de conjoncture ne sont pas bonnes, ce qui signifie moins d'emplois créés que prévu, ce qui signifie donc moins de recettes pour la Sécu. Et à cela vient se surajouter les conséquences de la nouvelle politique gouvernementale de gestion de la sécurité sociale. Une réforme, là encore, passée inaperçue lorsqu'a été voté le budget 2019 et qui permet des transferts financiers du budget de la sécurité sociale vers celui de l'État. Un budget de la Sécu qui se voit donc amputé de toutes parts et dont les recettes sont non seulement réduites, mais non compensées par l'État, comme c'était le cas jusqu'à présent. Le Haut Conseil estime donc qu'il serait opportun que le gouvernement revoie sa copie sous peine de recreuser bien plus vite que prévu le trou de la Sécu.
Merci Anne-Laure Chouin. Eux auraient sans doute préféré partir avec des prévisions économiques de meilleur augure. Ce sont les dirigeants européens qui doivent se réunir demain en Roumanie pour parler de l'avenir de l'UE. Hier, la Commission européenne a abaissé ses prévisions pour 2019 avec un PIB à 1,4% pour l'ensemble de l'Union et 1,2% pour la zone euro. On termine avec un mot de météo. Cet après-midi, le temps sera globalement instable. Partout, des averses parfois orageuses accompagnées de rafales de vent se déclencheront sous un ciel bien chargé. Quant aux températures, elles s'échelonneront entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.